dans votre local, soit ceux qui sont chez eux. Donc je vais, alors peut-être d'abord me réjouir beaucoup et vous bénir, vous féliciter de faire ce que vous faites. Enfin, il y a beaucoup de choses, mais entre autres là de prendre un livre de la Bible et de le suivre, c'est magnifique. Il ne suffit pas de lire la parole de Dieu par morceaux choisis, par-ci, par-là, parce que sinon il y a des choses que Dieu a dites qu'on ne lira jamais, même après 50 ans de vie chrétienne. Et le seul moyen de finalement lire, soit seul, soit aussi ensemble, tout ce que Dieu a dit, ben c'est d'avoir aussi une lecture suivie dans l'Écriture. Il y a bien sûr des lectures par morceaux choisis, quelquefois un seul verset le matin avant de partir au travail, mais il y a des temps pour lire en suivi. Alors, donc, je m'inscris dans ce que d'autres ont commencé parmi vous. Et donc, nous sommes à Matthieu 8 et 9. En fait, les premiers mots du chapitre 8, lorsque Jésus fut descendu de la montagne, de grandes foules le suivirent, etc., un lépreux survint, ces premiers mots, je les souligne pour rappeler que dans Matthieu est écrit de manière à faire alterner des sections de récits plutôt et des sections d'enseignement. Donc des sections où plutôt on voit ce que Jésus fait, ou au début ce que Dieu fait avec la naissance de Christ, et ensuite où on voit ce que Jésus dit, puis de nouveau une section, qu'est-ce qu'il fait, puis qu'est-ce qu'il dit. Donc la section précédente, c'était le sermon sur la montagne, où la totalité du texte, ce sont des paroles de Jésus, il n'y a pas de récit. Et maintenant, voilà, lorsque Jésus fut descendu de la montagne, ça fait charnière entre une section d'enseignement de Jésus et une section, c'est-à-dire une partie du texte de Matthieu, où on voit ce qu'il fait. Et ces chapitres 8 et 9, c'est une succession de petits récits, hein, en gros il y en a deux fois trois dans chaque chapitre, donc ça fait que pour si on prend les deux chapitres aujourd'hui, il y en a 12. Alors malheureusement ça ne veut pas dire qu'en 40 minutes ou que sais-je, on va plonger profondément dans chacun des 12 récits, ça sera forcément un survol, mais il faut tout de suite prendre en compte une chose, c'est que ce ne sont pas 12 récits éclatés. Ils peuvent tout à fait être lus séparément, mais ils ne sont pas séparables. Pour une raison très simple, c'est parce que chacun de ces petits récits montre le même Jésus-Christ, le même roi, en train d'agir et de parler aussi. Quand il agit, il parle quand même. Mais ce sont plutôt des récits. Alors, encore un petit mot de un peu qui concerne l'ensemble là, des deux chapitres, et en vérité qui concerne l'ensemble des évangiles. Il y a beaucoup de mouvements. Chacun de ces petits récits, ou quasiment tous, commence par un verbe de mouvement. Le premier, c'est il est descendu de la montagne, ensuite Jésus était entré dans Capernaum, ensuite il se rendit à la maison de Pierre, ensuite voyant la foule, il donna l'ordre de passer sur l'autre rive, ensuite il monta dans la barque, ensuite quand il eut abordé sur l'autre rive, puis de nouveau Jésus monta dans la barque, ensuite en passant plus loin, Jésus vit un homme, etc. Donc beaucoup de mouvements. Et l'un des derniers verbes de ces deux chapitres sur lequel on s'arrêtera pour conclure, c'est Jésus parcourait les villes et les villages. Avec un écho impressionnant au début de Genèse. Alors donc, Matthieu 8, il y a un premier récit de simplement 4 versets, le lépreux qui vient. Oui, je dois vous dire qu'on ne va pas forcément lire la totalité de chaque récit. Je vais essayer de lire quand même autant que possible. Un lépreux survint, au verset 2, qui se prosterna devant lui en disant « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois purifié. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus, là je le lirai tout à l'heure, le verset 4. Pour aujourd'hui, arrêtons-nous seulement sur cette parole de Jésus, « Je le veux », qui répond à la demande de l'homme lépreux, « Si tu le veux ». Je ne connais pas de texte dans tout l'Ancien Testament qui mette l'accent sur la volonté de Moïse, la volonté d'Abraham, la volonté de Josué, de Samuel, etc. Je ne connais pas de personne qui, voulant s'approcher de Dieu, dit, vous comprenez? Donc, le simple fait que cet homme dise, si tu veux, donc, de prime abord, c'est juste qu'il considère Jésus comme pas n'importe qui, justement, mais la réponse, le simple fait qu'il dit « je le veux », et puis surtout la réponse « je le veux ». Je ne connais pas de texte où Moïse écrit « je le veux ». Vous voyez? Et rien que ça, évidemment, que dans cette action de Jésus qui guérit cet homme, il le touche, il le guérit, eh bien, on voit Jésus homme et Dieu, on voit Jésus roi comme l'un ou l'autre l'a dit hein, tous les dimanches précédents. Et puis ensuite, verset 4, garde-toi d'en parler à personne. Ça ne va pas être facile. Mais Jésus l'a quand même dit. C'est-à-dire, attention à ne pas dissoudre à toute vitesse dans des discussions avec les autres, ce qui vient de se passer pour moi, entre Jésus et moi. Ce que Jésus a fait pour moi, attention, ne te précipite pas tout de suite pour en parler aux autres, parce que vous allez discuter, vous allez dissoudre ça, certains vont t'encourager, d'autres vont essayer de mettre en doute ce que tu as vécu, etc. C'est, voilà, n'en parle à personne, mais, et donc ce que Jésus lui fait faire, va te montrer au sacrificateur, présente l'offrande que Moïse a prescrite. Donc voilà, là je n'ai pas plus à dire puisque ça a été souligné aussi chez vous il y a quelques dimanches que Jésus ne se pose pas en rupture avec la loi de Dieu, bien au contraire. Mais il se présente comme un avec l'Éternel qui a donné la loi. C'est Isaïe 33, verset 22 qui dit « L'Éternel est notre juge. L'Éternel est notre législateur. L'Éternel est notre roi. C'est lui qui nous sauve. » Et en sauvant cet homme, en le guérissant, Jésus clairement se montre un avec l'Éternel qui est à la fois le juge, le législateur, le roi, et le seul qui sauve. Ensuite, Jésus entre dans Capernaum. Il y a un centenier qui l'aborde. Ça, c'est très connu et c'est extrêmement impressionnant, cet épisode. Donc, je répète, on voit Jésus en train d'agir. mais dans la vie des gens, dans leur... C'est pour ça que dans chacun des petits récits, il y a quelqu'un qui dit quelque chose, qui demande quelque chose, qui vit quelque chose. Et puis Jésus répond très courtement en général. Et puis Jésus agit et fait quelque chose. Donc, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé, violemment tourmenté. Et Jésus lui dit, moi, j'irai le guérir. Je dirai un mot tout à l'heure sur ce mot guérir. Le centenier répondit, « Seigneur, je ne mérite pas que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des chefs, j'ai des soldats sous mes ordres. » Voilà, il faut bien réaliser ce que dit cet homme. Il dit, « J'ai des autorités au-dessus, et moi-même, pour d'autres qui sont en dessous, je suis une autorité. Voilà. Et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Voilà. Et donc, pourquoi, un des mots les plus importants, là, c'est le mot car. Parce qu'il vient de dire à Jésus, dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Il dit, je ne mérite même pas que tu viennes chez moi, dis un mot. Et autrement dit, pourquoi ça me suffit que tu dises un mot? Parce que je suis parfaitement conscient qu'il y a des niveaux d'autorité, qu'il y a plusieurs ampleurs d'autorité. Et si toi tu dis un mot, eh bien, il sera guéri. Autrement dit, à mes yeux, tu es le niveau suprême d'autorité et de puissance et de pouvoir. C'est impressionnant. Le mot car est très important. Il explique, si vous voulez, l'homme explique pourquoi, il explique sa foi en fait. Voilà, et mon serviteur, ben, il le fait. Et donc, immédiatement, le texte continue. Après l'avoir entendu, Jésus admira cet homme et dit à ceux qui le suivaient, en vérité, je vous le dis, je n'ai trouvé chez personne, même en Israël, une si grande foi. Hein, puisque c'était un centenier romain. Et donc, en fait, oui, l'homme, il a foi, il explique sa foi, et Jésus la voit très bien, et il l'admire, il la souligne. Voilà, une si grande foi. Et il y a ici une chose importante à... Bon, d'abord, il faut se réjouir, c'est magnifique, à relever qu'à ce stade, il n'est pas encore guéri, l'homme, hein. Mais on lit des choses extraordinaires. Hein. Je ne sais pas si c'est pas une. Je crois que c'est une fois sur deux, une des deux seules fois où Jésus admire quelqu'un dans tous les évangiles. Globalement, c'est les hommes qui admirent Jésus. C'est pas Jésus qui admire les hommes. Hein. Mais voilà. Et là, c'est pour la foi. Alors, ce qu'il faut relever, c'est que ça nous dit de manière très très forte ce qu'est la foi. La foi n'est pas la capacité humaine à croire. Alors, je sais qu'on l'a tous fait, soit pour parler de Jésus à des amis, soit pour encourager quelqu'un, soit dans des prédications. Malheureusement, on l'a tous fait. D'appeler foi, on dit, ben, si tu as confiance que quand tu tournes le volant, la voiture va tourner. Hein, si tu tournes à gauche, la voiture ira à gauche. Et si tu tournes à droite, la voiture ira à droite. Et on dit, bon, ben, tu as foi dans le système de direction de ta voiture. Et en fait, c'est tout à fait impropre d'employer le mot foi pour ça. Parce que jamais la Bible n'emploie le mot foi pour autre chose que pour une réponse de l'homme à quelque chose que Dieu a dit ou fait. Autrement dit, ce centenier, pour dire à Jésus, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri, ce centenier, il avait entendu déjà des choses au sujet de Jésus. Il avait entendu, rapporté, alors soit il avait entendu directement, par exemple, le sermon sur la montagne, dans les chapitres précédents, soit il a entendu rapporter des paroles que Jésus a dites sur la montagne, soit il a entendu rapporter des actes de Jésus. Et autrement dit, c'est ce qui est écrit, hein, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Voilà. Autrement dit, ce n'est pas par, si c'est rapporté par quelqu'un, ce n'est pas un problème. Parce que la parole entendue vient de Christ. Et c'est ce que dit l'apôtre Pierre, hein, c'est le premier verset de sa deuxième épître. Nous avons reçu de Dieu la foi. Et ça explique d'autant plus l'admiration de Jésus. Parce que certes, il admire le fait que cet homme, à quel point il répond à ce que Dieu fait et dit par Jésus, mais en même temps, cette réponse, eh bien, elle n'est que le résultat de la parole et de l'action de Dieu. Vous voyez ? Puis, le récit finit comme ça, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. J'ai dit que je dirais un mot sur guéri, je vais le dire au sujet de l'épisode suivant. Ensuite, Jésus se rendit à la maison de Pierre. Il vit la belle-mère couchée avec la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta, puis elle se leva et se mit à le servir. Ça a du sens, ça a vraiment du sens. À peine guéri, servir Jésus. Je me demande si quelque part, ça résume pas toute la vie chrétienne. Vous savez que le Nouveau Testament emploie le mot guéri pour parler du salut aussi. Et Pierre, hein, quand Pierre dit « Vous êtes retourné » au souverain berger. Le soir venu, verset 16, on lui amena plusieurs démoniaques et il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades. Donc, quand Jésus tout à l'heure répond au centenier, « Moi, j'irai le guérir. » Ça, c'est des paroles, c'est clairement des paroles de quelqu'un qui assume qui il est. « Moi, j'irai le guérir. » Et puis ici, Il guérit tous les malades. Le verbe ici signifie, donc ce n'est pas un verbe de la famille de miracles, etc. C'est le verbe qui a donné en français thérapie. Alors attention, Jésus ne dit pas « je vais lui faire une thérapie ». Il dit « et je guéris ». Mais ça veut dire, le verbe implique soigner, servir. Le soigner, le servir, c'est-à-dire le prendre en considération et le prendre complètement à cœur. Vraiment m'investir pour lui. Vous voyez ? Et puis, quand Jésus dit au centenier, non pardon, quand le texte dit « alors même le serviteur fut guéri », là c'est un autre verbe pour dire simplement « voilà, c'est arrivé ». Donc voilà, il est guéri, Dieu l'a fait. Ça désigne l'événement, le résultat, si vous voulez. Mais il est intéressant de remarquer que quand l'Évangile dit, parce que, pardon, j'espère que je ne suis pas trop décousu, au verset 16, on a lu « Il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades », donc les deux choses sont distinguées, elles ne peuvent pas être confondues en une même chose. Et verset 17, « Ainsi s'accomplit la parole du prophète Ésaïe, il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. » Or, dans l'ensemble du texte, il n'y a ni le Seigneur, ni le texte biblique ne fait aucune allusion à la croix. Et donc, le texte dit simplement, il s'est chargé de nos infirmités, cette prophétie d'Ésaïe s'est accomplie par le fait que Jésus s'est entièrement investi pour prendre à cœur la situation de l'homme pécheur et malade. À la fois malade du péché et malade des résultats, donc malade après physiquement, psychologiquement, des résultats du péché. Ainsi s'accomplit la parole. Je suis en train de réaliser que je me suis pas mal investi dans ces premiers récits et que ça a pris du temps. L'épisode suivant, C'est quelqu'un qui est connu, hein. Je te suivrai partout où tu vas. Jésus dit, mais les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Et Jésus finit, suis-moi et laisse les morts ensevelir les morts. Or, la mort comme échéance à la fin de la vie, c'est quelque chose d'énorme pour tous les êtres humains. Parce que l'homme avait dit, je vais te suivre, mais je vais d'abord ensevelir mon Père. Jésus dit, laissez-moi ensevelir, suis-moi. Et c'est-à-dire, il est en train de dire, je suis plus important que ce qu'il y a de plus important pour tous les humains de la terre, la vie et la mort. Mais moi, je suis plus que ça. De même, l'épisode suivant, il monte dans la barque, ses disciples suivent, il s'éleva sur la mer une si forte tempête que la barque était couverte par les vagues. Lui, il dormait. Là, il y a un modèle. Hein. Là, il y a un modèle. Et voilà. Je lis juste la fin. Alors, il se leva, menaça les vents et la mer. Un grand calme se fit. Plein d'admiration, ces hommes se disaient « Qu'est celui-ci ? Qui est celui-ci ? » Que même les vents et la mer lui obéissent. Voilà. Alors, quelques versets plus haut, Jésus dit implicitement « Je suis plus que tout ce qui vous est le plus important, vie et mort. » Et ici, il montre, il menace le vent et la mer et un grand calme se fait, mais il montre que il se montre comme un avec le Créateur. Vrai Dieu. Parce que Jésus, à la fois vrai homme et vrai Dieu, c'est en même temps. Si vous voulez, quand Jésus vient sur la terre, il ne cesse pas d'être vrai Dieu. Il se dépouille de la gloire céleste qui fait qu'un œil de chair ne peut même pas voir. Puisque la parole est claire, si les yeux de chair voyaient Dieu tel qu'il est, on mourrait immédiatement. Donc, il se dépouille de cet éclat-là. Mais lui, il reste Dieu. La preuve dans Matthieu 17, quand la transfiguration, son visage devint comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Donc, ce vrai homme auquel même le vent et la mer obéissent. Et de nouveau, l'épisode suivant, en fait, tous les épisodes, quand on les prend comme des perles sur un fil, chaque épisode dit quelque chose d'exceptionnel sur le Seigneur. Le suivant, c'est quand il arrive au pays des Gadaréniens, là il y a deux démoniaques qui sortent des tombeaux et le texte précise, ils étaient si violents, si hostiles, si dangereux, hein, que personne n'osait passer par là. C'est littéralement l'essence du mot traduit par si redoutable. Hein. Et c'est eux qui commencent à crier à Jésus, « Que veux-tu de nous, fils de Dieu ?» Es-tu venu pour nous tourmenter avant le temps ? Donc là, l'épisode montre à quel point Jésus est clairement connu dans le monde des esprits. Évidemment, il existait bien avant de s'incarner. Il existait, le Verbe est insuffisant. Il est Dieu le Fils éternellement. Donc les esprits là, le reconnaissent, ils reconnaissent complètement son autorité et en aucun cas, accessoirement, ils ne la contestent. Hein. Et simplement, ils se permettent de dire, mais c'est peut-être pas encore le temps de notre châtiment ultime. Et donc, Jésus chasse les démons. Et puis, le dernier verset de l'épisode, alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus. Et dès qu'ils le virent, il faut pleurer en fait. Quand on lit ça, il faut pleurer. Ils le supplièrent de s'éloigner de leur territoire. C'est impressionnant. Ce paragraphe, cet épisode dans Matthieu, parce que dans Marc et Luc, il y a un assez fort accent qui est mis sur l'homme qui est l'homme ou les hommes de qui les démons sont chassés. Dans Marc et Luc, c'est au singulier. Et même Marc et Luc rapportent ce que Jésus dit à cet homme. Mais étonnamment, dans Matthieu, pas un mot sur ça. Et l'épisode souligne que deux choses. Jésus est reconnu, connu et reconnu par les esprits mauvais. Et puis, que font les hommes face à Jésus? Est-ce qu'ils le reconnaissent? Est-ce qu'ils ne le reconnaissent pas? Est-ce qu'ils se réjouissent de sa venue ou pas? Et ici, il y a une telle frayeur. Alors, il y a l'épisode des pourceaux. Donc là, financièrement, ça leur coûte cher, hein, à la région. Ça coûte très cher, cette histoire. Mais ils le supplient de partir. Vous vous rendez compte? Enfin, nous rendons-nous compte. Dieu envoie son Fils. Et son Fils, il vient, il guérit, voilà, il parle, il enseigne, il accomplit la loi, etc. Il guérit les gens, il chasse les démons, etc. Et puis, pour certains, la seule chose à faire, c'est de le supplier de partir. Contre-exemple. Chapitre 9. Un épisode très connu encore. C'est l'épisode où d'autres évangiles précisent que pour amener le paralytique, certains ont ouvert le toit pour le faire descendre, tellement il y avait de monde dans et autour de la maison et il ne pouvait pas rentrer. Bon, mais ici, ce n'est pas détaillé. Simplement, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dont la foi des gens, des amis qui amènent cet homme. Très bel encouragement pour chaque disciple de Jésus qui veut amener quelqu'un vers Jésus. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant. Tes péchés te sont pardonnés. » Et donc, sur quoi quelques scribes se dirent, « Cet homme blasphème !» Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs ?» Qu'est-ce qui est plus facile? Parce que les scribes, ils ne l'ont pas dit à haute voix. Hein. Ils se disent à eux-mêmes, oh, « C'est pas possible. » Il dit, « Tes péchés sont pardonnés. » Il se prend pour plus que Moïse, lui, puisque même Moïse n'a jamais dit ça à personne. Il a dit, « C'est Dieu pardonne. » Mais Jésus voit, lit dans leur cœur et il leur dit, « Qu'est-ce qui est plus facile de dire, deux points, tes péchés sont pardonnés ?» ou de dire, deux points, lève-toi et marche. Or, et là il leur, et c'est une grande grâce, et c'est une grâce qu'il leur fait, et aussi qu'il est fait à nous, puisque maintenant ça a été écrit, et donc on peut entendre Jésus nous le dire aussi. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, et là, il cesse de parler à eux, d'expliquer, et il se tourne vers le paralysé, et il lui dit, « Lève-toi, prends ton lit et retourne chez toi. » Il se leva et s'en alla chez lui. Et donc, Jésus est en train de leur dire, le miracle extraordinaire que je fais, et en vérité que je vais faire, puisqu'il a commencé l'explication avant de le faire, c'est pour que vous sachiez qu'avec moi sur terre, il y a le pardon des péchés. Et donc, le miracle est réel. L'homme est donc c'est pas ici, c'est pas une parabole. L'homme est guéri, est complètement guéri. Et ce faisant, Jésus souligne que le miracle est un signe. Le miracle n'est pas que signe, il est aussi acte de puissance, il est prodige qui révèle que Dieu est là et fait quelque chose. Il est acte de puissance et acte de bonté au bénéfice de cet homme. Donc il n'est pas que signe, mais il est signe. Et Jésus souligne, fondamentalement, il est signe. Et dans l'emploi des divers mots qui peuvent se traduire miracle dans le Nouveau Testament, c'est le mot signe, séméion, qui est de loin le plus fréquent. Le miracle est signe, c'est-à-dire que quand Dieu fait un miracle, c'est pour attirer mon cœur et mon regard plus haut, vers quelque chose de plus entier, de plus définitif. Quelqu'un qui est guéri peut encore être malade plus tard. Même, on va le voir à peine plus loin, une personne ressuscitée sur terre, elle va décéder de nouveau après. D'accord ? Le miracle est signe. Il révèle à quel point Jésus est roi, déjà sur terre, mais il est signe. Il est signe du règne éternel. À propos du règne de Jésus, je voudrais rapidement revenir sur quelque chose qui était au début du chapitre 8. Il me semble que je dois le faire. Quand Jésus dit, après la guérison, après avoir parlé au centenier, et il dit, même en Israël, j'ai pas vu une si grande foi. Et il dit, donc, chapitre 8, verset 11, hein, désolé de vous faire revenir en arrière, je vous le déclare, plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident, donc, c'est-à-dire ne sont pas israélites, et se mettront à table avec Abraham, Isaac, Jacob, dans le royaume de Dieu. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Voilà. Et c'est-à-dire, ce que cet homme a fait, ce centenier, de reconnaître le roi, est plus important que d'avoir pour ascendant des personnes anciennes qui sont déjà dans le royaume de Dieu. Et ma propre entrée dans le royaume de Dieu est déterminée par la manière dont je reçois Jésus le roi et non pas par mes ascendants. Je dois beaucoup à mes ascendants. Alors moi qui vous parle, je ne suis pas israélite, mais mes parents étaient déjà disciples de Jésus avant ma naissance et la maman de mon père aussi, etc. Je dois beaucoup à mes ascendants. Je dois beaucoup à la foi qu'ils ont eue, à ce qu'ils ont, à leur fidélité, aux exemples qu'ils ont donnés, etc. Si j'étais israélite, je dirais que je leur dois encore plus, parce que ça remonte plus loin de manière identifiable. Hein? Mais que je sois israélite, que je ne le sois pas, notre entrée dans le royaume de Dieu, être reçu à table avec Abraham, Isaac, Jacob dans le royaume de Dieu, mon entrée dépend de la manière dont je reçois Jésus. Alors, on revient, si vous voulez bien, au chapitre 9. Donc, après la guérison du paralysé, chapitre 9, verset 9, voilà. En passant plus loin, hein, toujours mouvement, en passant plus loin, mais mouvement dans la vie des hommes. C'est ça, si vous voulez, c'est pour ça qu'ils sont si beaux ces deux chapitres, comme l'ensemble des évangiles. C'est que... On voit Jésus aller, venir, agir dans la vie des humains. Et ça, en vérité, il le continue. Il le continue par son esprit, dont il est dit dans Apocalypse 5, mais cet esprit de Dieu au sens figuré, envoyé par toute la terre. L'esprit de Dieu, j'allais dire, agit partout, tout autour du globe. Et Jésus continue par les membres de son corps, c'est-à-dire par tous ses disciples, tous ses rachetés, tous ceux qui sont devenus ses enfants par leur foi en lui, leur repentir et leur foi en lui. Donc, en passant plus loin, Jésus vit un homme appelé Matthieu, donc de son nom juif Lévi, c'est le même, hein, assis au bureau des péages, il lui dit « Suis-moi ». Et là, je veux juste souligner une petite chose, c'est que cet homme-là, il fait son travail. Globalement, il le fait, plus que globalement, là, c'est clairement, il le fait sous l'autorité des Romains. Il collecte l'impôt au bénéfice des Romains. Il a une part pour lui. Et cet homme-là, il est, si vous voulez, il est en train de entre guillemets, travailler pour les autorités terrestres. Et Jésus, il arrive et il dit, suis-moi. laisse tomber ton boulot pour les autorités terrestres et viens avec moi. Et de nouveau, c'est, si vous voulez, implicitement, c'est le roi qui parle là. Alors, en aucun cas, Jésus n'a poussé ses disciples, ni là, ni après les apôtres ne l'ont fait, à s'opposer aux autorités civiles. Au contraire, il est écrit noir sur blanc de leur être soumis. Cependant, Jésus est au-dessus. Jésus est au-dessus. Suis-moi. Voilà. Oui. Anne-Marie me chuchote, le temps passe. Ne vous inquiétez pas, vous mangerez quand même. Et je m'arrêterai à midi. C'est difficile de parler à tout le monde et à personne en même temps. Là. J'ai du mal à prêcher à mon ordinateur. Allez, me dit Anne-Marie, tu perds davantage de temps. Donc après, Jésus m'en va, hein, il est invité chez c'est dans la maison de Lévi, en fait, les autres évangiles le précisent, il mange, etc. Et il dit, voilà, je suis venu appeler des justes. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Et puis donc, il y a des gens qui viennent lui dire, mais pourquoi nous jeûnons? Les disciples de Jean-Baptiste, ils jeûnent. Non, c'est des disciples de Jean-Baptiste qui disent nous jeûnons. Et les pharisiens jeûnent. Et il dit tes disciples ne jeûnent pas. Et Jésus répondit l'ami de l'époux peut-il mener deuil tant que l'époux est avec eux. Donc, chapitre 9, verset 15. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors, ils jeûneront. Clairement, Jésus leur dit, tant que je suis là, physiquement, en personne, ce n'est pas le moment de jeûner. C'est le moment juste d'ouvrir grand les yeux, grand les oreilles, grand les cœurs. Voilà. Voilà. Et c'est pour, autrement dit, ce qui... Oh, je ne sais plus, pardon, où c'est qu'on a... Je ne sais plus, mais dans un endroit dans ces deux chapitres, il est écrit « Jamais en Israël, rien de pareil n'est arrivé. » Les gens disent ça au sujet de Jésus. Et en fait, c'est ça. Jésus leur souligne. Il n'y a jamais eu plus humble que Jésus, plus parfaitement, saintement humble que Jésus. Mais en même temps, en aucun cas, il y a la fausse humilité qui fait de dire « Ah non, je ne suis rien. » Vous voyez ? Et Jésus leur souligne « Ce qui se passe avec moi, c'est jamais arrivé. C'est plus que tout. C'est plus grand que tout. » Voilà. Et c'est ça qu'il veut illustrer par la double comparaison qui suit. « Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieux vêtement, car le morceau tire sur le vêtement et il en résulte une déchirure pire. » On ne met pas non plus le vin nouveau dans de vieilles outres, du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdus. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et l'ensemble se conserve. Et cette double comparaison, une pièce de drap neuf ou bien du vin nouveau, Jésus dit, en fait c'est pour illustrer l'évangile. Il n'est pas en rupture avec ce qu'il y avait avant, mais c'est plus grand, c'est plus que tout. C'est nouveau. C'est neuf, c'est nouveau. Voilà. Voilà, oui, Anne-Marie m'a dit, c'est le verset 33 du chapitre 9. Jamais rien de semblable ne s'est vu en Israël. Voilà, le drap neuf, le vin nouveau, c'est l'évangile. Ensuite, il y a l'épisode et on finira par là. C'est un épisode gigogne parce qu'il y a deux histoires. Il y a une histoire dans l'histoire. Il y a un chef de synagogue sans doute. Qui arrive au verset 18, se prosterne devant lui et dit « Ma fille est morte, il y a un instant. Mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Donc ça, c'est le premier épisode qui va finir. Donc on va pas le lire, simplement souligner là qui va finir par la résurrection de la jeune fille. Et quand Jésus entre là où elle est morte, il y a déjà les joueurs de flûte, la foule qui avec les lamentations, et Jésus les fait partir. Verset 24, retirez-vous quand la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Et je voudrais souligner le contraste entre la foi de ce père qui dit, elle est morte, mais viens. Comment il considère Jésus? Et puis, comment les autres considèrent Jésus? Ils se moquent de lui. Alors évidemment que n'importe lequel de nos contemporains mis dans cette situation trouverait le papa arriéré mental et les moqueurs parfaitement raisonnables. Et là, on voit à quel point, quand Jésus vient, il y a un renversement des repères, de la sagesse, de voilà. Pour le papa, Jésus est le roi en ce qu'il est clairement au-dessus de la vie et la mort. Voilà. Parce que, alors je ne l'ai pas dit au début, c'était implicite dans ma pensée, mais je vais l'expliciter. Quand les évangiles présentent Jésus roi, et particulièrement Matthieu, c'est très clairement et explicitement plusieurs fois dans le sillage de ce que j'ai. Ben si, je l'ai cité, oui, pardon, j'ai cité Isaïe 33, l'Éternel est notre roi. C'est très clairement dans ce sillage-là. Et donc, cette résurrection, même si Jésus en a opéré peu, les résurrections, infiniment moins que des guérisons, c'est quand même une réalité. Et puis, encore un signe concret pour aider la foi dans la promesse d'une résurrection ultime pour tous les siens. Et donc, dans cet épisode de ce papa dont la foi est un modèle, il y a l'épisode de la femme atteinte d'une perte de sang, ce qui, en plus de 12 années de douleur, d'asthénie, sans doute de faiblesse, etc., la privait de participer au culte de l'Éternel. Parce que dans la loi de Moïse, c'était une impureté. Je dois dire en passant que toutes les lois sur l'impureté physique, y compris sur les nourritures, etc., n'étaient que pour éduquer l'Israélite, éduquer sa conscience à la réalité dans la vie humaine, à la réalité dans ce monde d'une pureté ou impureté spirituelle. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, le fait que ce soit le temps des menstruations, en aucun cas ne rend la personne impure. Cependant, pour cette femme-là, et le miracle que Jésus va faire pour la guérir, pour cette femme-là, elle était privée de participer à la synagogue, par exemple. Et donc, de nouveau, il y a un modèle de foi remarquable, moins flagrant que le papa, beaucoup plus discret. D'ailleurs, elle ne dit rien à personne, elle dit juste, si je m'approche et si je peux toucher le bord du vêtement, je serai guéri. Et Jésus se retourna, la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Et cette femme fut guérie à l'heure même. C'est-à-dire non seulement finir de courir de médecin en médecin, finir de dépenser beaucoup d'argent, mais surtout, je suis restauré dans ma place, parmi les autres, autour pour bénir l'Éternel dans le culte de Dieu. Et c'est ça la conversion. C'est pas seulement fini de courir après des médecins inefficaces. Là, je parle médecin au sens figuré, hein, des conseillers, des gourous, des tout ce que je veux. Non seulement fini de gaspiller mon argent, mon énergie, mon temps pour essayer de remplir mon cœur ou de me guérir de mes misères et de tout ce qui aspire mon sang, aspire ma force. Voyez, non seulement ça, mais surtout la conversion, c'est voilà, Dieu me donne place. Jésus me donne place avec lui pour être adorateur de l'Éternel. Voilà. Et puis après, il y a le dernier épisode, c'est les deux aveugles. Voilà, et je vais simplement relever de cet épisode-là la question qu'ils viennent, hein, ils crient, hein. Aie pitié de nous, fils de David, ce qui pour eux voulait dire Messie, Messie de l'Éternel. Et Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Et elle est belle cette question, parce qu'elle est difficile aussi, il nous met face à la foi. Hein. Voilà, oui Seigneur. Amen. Alors peut-être que quelqu'un dira, mais tu n'as pas fini le chapitre 9. Eh bien en fait, il pourrait, dans la logique du texte, il pourrait se finir là, puisque le suivant, il bascule, le verset 35 du chapitre 9 bascule voilà, encore beaucoup de paroles de Jésus, bascule sur une section où Jésus, où on le voit moins agir, qu'on ne l'entend parler. Mais peu importe, et donc je finis, ça fait plusieurs fois que je le dis, désolé, mais je finis par le verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans leur synagogue et prêchait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. Et donc ce parcourait, je finis avec ce verbe, il parcourait, donc Genèse 3, verset 8, l'Éternel parcourait le jardin à la brise du soir. Je crois que c'est ça. Hein? Je crois qu'il y a le mot brise. Et là, il y a, voilà, si je veux avoir un regard sur Jésus élevé, eh bien, ce verset déjà me l'élève, à mes yeux, élève le Seigneur Jésus glorieusement et divinement l'élève. Jésus parcourait. Il est Dieu. Comme l'Éternel parcourait le jardin. Amen.